Irwin rassembla ses esprits, remit en place le graphique qui avait glissé sur son genou. Je ne sais que dire, monsieur. C'est impensable pour moi, surtout dans l'impasse où se trouvaient nos recherches en 1994. En 1994, vous perdiez votre temps chez les Français à dédoubler des vaches, pendant que d'autres, sur le sol américain, jouaient aux apprentis sorciers avec le sang du Christ. Le rictus des derniers mots avait projeté la voix jusqu'à l'extrémité nord du bureau, où l'épagneul endormi dressa une oreille. Chacun retenait son souffle. Irwin laissa passer quelques secondes de décompression, puis déclara doucement. Depuis 1994, monsieur le président, je travaille sur la possibilité de cloner un mammouth à partir d'un spécimen retrouvé congelé en Sibérie. Je maintiens qu'en l'état actuel de nos connaissances, il est impossible de transplanter le noyau d'une cellule fossile.
Une cellule fossile ? C'est du sang du Christ que nous parlons, Irwin, pas d'un mammouth. Le sang du Christ miraculeusement conservé, source de l'alliance nouvelle et éternelle qui a transmis jusqu'à nous le mystère de la passion.
C'est impensable, balbutia Irwin.
Pensez ce que vous voulez, répondit le docteur Sandersen, mais sur 95 embryons, nous avons mené à terme une grossesse.
Couchez, Spot, ordonna le président.
L'épagneul s'assit en regardant sa laisse accrochée à une console.
Un enfant mâle est né, poursuivit le généticien, de constitution robuste, ne présentant aucune des anomalies fréquentes chez les clones, aucune pathologie, aucun symptôme d'une quelconque dégénérescence.
Vous avez pris un brevet ?
Sandersen considéra avec un silence indulgent la mine coincée du pasteur qui avait proféré sa question sur un ton d'anathème. La réponse allait de soi. Le détail du dépôt, avec les droits et protections afférents, figurait dans le dossier du projet Oméga. La page titre portait en exergue la phrase de l'Apocalypse attribuée à Jésus « Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin ». Le professeur McNeil se leva et s'approcha des posters, lentement. Il avança une main tremblante vers l'image du Christ, posa la paume au centre du drap funéraire qui lui apparaissait désormais comme un tissu nourricier, une matrice.
Et question personnalité, il est comment ?
Questionna Buddy Kuperman, contorsionné sur son fauteuil pour dévisager l'homme en gris.
Son développement a été tout à fait normal, compte tenu du milieu médical isolé dans lequel il a grandi, sans contact avec d'autres enfants. Les pédopsychiatres l'ont jugé conforme aux critères de son âge. Aucun don particulier, aucune réaction bizarre qui aurait pu être liée à sa nature. Il jouait, il dessinait, apprenait le calcul et la lecture. On lui racontait des histoires.
Son histoire ?
S'enquit brusquement Kuperman en pointant le doigt. Non, un minimum d'instruction religieuse pour réactiver les cellules mémoire, c'est tout.
Des résultats ?
Rien de flagrant, si ce n'est, quand il avait 4 ans et 7 mois, la disparition d'une blessure chez un prêtre qui lui lisait l'Évangile. Vous avez le témoignage en annexe, page 38.
Il ne s'est pas révolté contre sa captivité ?
Demanda le professeur McNeil du bout de la voix.
Nous lui avons expliqué qu'il était un enfant abandonné, atteint d'une faiblesse immunitaire l'empêchant de quitter le centre, afin d'éviter toute contamination avant qu'il ne soit guéri. Nous avons, si vous voulez, cultivé sa différence tout en justifiant son isolement pour préparer le terrain. L'expérience consistait à voir si, alors qu'il ignorait tout de ses origines, quelque chose en lui se révélerait avec le temps.
Et alors ? Sandersen marqua un silence, soupira puis laissa tomber. Nous l'avons perdu. Un frisson parcourut l'assistance. Seule Bush et ses faucons restaient de glace.
Le poing de Kuperman s'abattit sur l'accoudoir.
« Perdu ! »
beugla-t-il avec une violence désespérée, comme si un virus informatique venait de lui effacer le scénario en cours.
« Il est mort ! »
« Nous l'ignorons. Un incendie a détruit en partie le centre de recherche en octobre dernier. »
Juste au moment où Clinton allait céder la place, nota l'un des faucons d'une voix atone.
Sans relever l'insinuation, le docteur Sandersen continua de répondre à Buddy Kupperman.
Son corps n'a pas été retrouvé parmi les victimes. Nous avons transmis son signalement, sans donner son identité, bien sûr. Le projet étant classé confidentiel défense, l'enfant n'a pas d'existence administrative. Toutes les recherches ont été vaines.
Il s'est dématérialisé, suggéra Erwin Glasner.
Un froid terrible se répandit autour de lui. Il pensa que c'était tout de même un comble. Avant même qu'une commission d'enquête scientifique n'ait vérifié le sérieux de cette histoire, la validité des analyses et le transfert du génome, le président et ses conseillers gobaient la nouvelle, tenaient pour acquise la naissance d'un clone issu d'un linge ensanglanté. Et c'est lui, Erwin Glasner, généticien diplômé de la meilleure université américaine, autorité mondiale en matière de reprogrammation cellulaire, qui heurtait les sensibilités face à un bricoleur d'ADN périmé dont les élucubrations devenaient paroles d'évangile.
Bref, conclut Sandersen, la disparition du sujet nous a tous consternés. Mais, Dieu merci, j'ai encore suffisamment d'embryons conservés dans l'azote en lieu sûr pour que nous puissions renouveler l'expérience, si tel est votre souhait, bien entendu, Monsieur le Président. Si votre administration reconduit mes crédits, je peux vous garantir que les résultats ne seront qu'une question de temps. Je détiens les brevets, je maîtrise la technique et je suis au service de mon pays.
Il faut le retrouver, décida Kupperman en jaillissant brutalement de son fauteuil. 98% d'échecs. On n'a pas le temps d'attendre un deuxième miracle. Enfin, soyons lucides.
Les yeux ronds, tétanisés par ce comportement, Bush regardait le gros dépenaillé arpenter le sol, cloquant les tapis, manquant renverser les bouquets et les maquettes de navires avec ses gestes véhéments.
« Non mais c'est génial! Vous ne vous rendez pas compte! Un Jésus clone! Un Christ de synthèse, un Autobot! Un Messie made in USA qui prêchera au monde entier la bonne parole! Qui incarnera la Pax Americana! Appuiera notre politique au Proche-Orient! Réconciliera les Juifs et les Arabes au nom de son humanité garantie in vitro! » Puisque, bon Dieu, Jésus est reconnu par le Talmud et le Coran comme prophète. C'est cette histoire de filiation divine qui fout tout en l'air. Mais là, on ne jouera que le côté prophète. Le message d'amour issu des avancées de la science, la manipulation génétique qui poursuit l'œuvre du Créateur, l'homme qui égale Dieu, le Verbe qui se refait chair à partir du langage de l'ADN. Et vous, Monsieur le Président, imaginez votre mandat. Régent de l'enfant Jésus, prix Nobel de la paix, une popularité à faire péter la planète, les paraboles, la voix de l'espoir, le Saint-Esprit, l'indice d'écoute. Oh, je le sens bien, là. Ah, je le sens vraiment. Et ça sera un coup de fraîcheur génial pour les États-Unis. Fini de mettre en scène nos ennemis, de manœuvrer des méchants. Enfin, on va tirer les ficelles d'un héros sympathique.
Assez de blasphème, crie Bush en soulevant les fesses.
Kupperman s'arrête net, la mèche en bataille, rattrape la maquette du Mayflower, la repose sur la cheminée. Avec une bouffée de nostalgie pour l'ère Clinton, il se rassied en reboutonnant sa veste. Les faucons ont encouragé son exhortation par des hochements de tête, ravis de le voir se torpiller si facilement. Ils se consultent du regard pour savoir lequel d'entre eux va prendre la parole.
« Je vous écoute, » leur dit Bush.
Monsieur le Président, puisque nous sommes dans l'absurde, allons jusqu'au bout. Continuons à extrapoler sur le mode d'emploi d'une créature engendrée par un drap de lin dont l'administration précédente ne sait ni où elle se trouve, ni même si elle est encore en vie.
Des sourires hésitants convergent vers le visage du maître et s'effacent en le voyant demeurer de marbre.
Je veux dire que tous dans cette pièce, monsieur, nous sommes persuadés que vous serez élu dans 4 ans.
Réélu, rectifie Bush, pincé.
Mais vous ne pourrez pas briguer un troisième mandat.
Or, en 2008, quel âge aura votre Jésus clone?
14 ans.
Et entre-temps, à supposer que nous l'ayons retrouvé, nous l'aurions produit sur la scène internationale. Nous lui aurions fait pacifier la Terre Sainte en couche-culotte sur l'air de « Maman, j'ai changé l'eau en vin ».
Soyons sérieux, monsieur. Il ne peut décemment pas jouer un rôle de messie conforme aux Écritures avant sa majorité. Nous n'allons pas élever en secret un petit Jésus pour qu'il profite à nos successeurs. George W. promena lentement son visage autour de la pièce. Puis il reprit une brioche et se resservit du café. Les respirations se firent le plus discrètes possible pour respecter la méditation dans laquelle il avait replongé. Mâchoire crispée, les yeux fixés sur un tisonnier de cuivre, il songeait aux 18 millions de conservateurs religieux qui avaient trahi son père en votant Clinton pour le punir d'avoir été trop tendre avec les Palestiniens. Et il ressassait en écho sa propre victoire, plus humiliante qu'une défaite. Il avait battu le démocrate Al Gore par 300 000 voix de moins que lui, sur décision des juges de la Cour suprême qui, devant en partie leur carrière au clan Bush, avaient mis un terme aux opérations de recomptage en Floride. Tout était à reconquérir, toujours, et la fin des temps était proche. Il fallait que le monde soit en ordre pour le retour du Messie, que la terre se prépare au jugement dernier. Après tout, si le Christ avait conservé jusqu'à ce jour, au cœur de son linceul, de l'ADN exploitable, c'était bien pour qu'on le clone. Mais c'était trop tôt. Les Écritures étaient formelles. L'Antéchrist devait survenir avant l'apparition du nouveau Messie. À moins que Saddam Hussein ne soit cet Antéchrist. Évidemment, ça changeait tout. Mais rien ne ressemble davantage à la volonté divine que les tentations du diable. Le fait que Bill Clinton soit lié au clonage christique suffisait à en dénaturer le résultat. Si l'enfant né du linceul s'était soustrait à ses concepteurs, s'il avait disparu corps et âme, c'était un signe. George Bush décroisa les jambes et se détendit. Son instinct lui avait parlé. Mieux valait mettre son bras au service de Dieu que de lui reconnaître un fils illégitime. « Merci, » fit-il en quittant son siège. Les autres se levèrent aussitôt. Il leur signifia que tout ce qui venait d'être dit relevait du secret défense niveau A et qu'en sortant du bureau ovale, chacun devait jurer par écrit le respect absolu du silence. Il informa le docteur Sandersen que tous ses crédits de recherche seraient gelés, ses archives saisies, ses embryons détruits, ses laboratoires placés sous scellé et le personnel soumis à l'obligation de réserve. Puis il démit de ses fonctions Buddy Kupperman et chargea Irwin Glasner de constituer une commission d'enquête indépendante sur les dangers du clonage humain en vue de son interdiction totale et définitive au moyen d'une loi l'assimilant à un crime. Quand la porte se referma derrière les sortants, il se tourna vers les trois faucons qui avaient réintégré leur canapé. « Bon, l'Irak, où en est-on ? J'ai promis au Congrès une décision rapide. On a un motif pour attaquer ou pas ?
Nous y travaillons, monsieur le Président. »